François Coppé. Conte rapide. Lettre d'amour. Depuis ces 10 dernières années, il n'y a certainement pas eu de plus vive surprise dans le monde des lettres que l'apparition du charmant volume de prose, tout simplement intitulé « Lettre d'amour », qu'a publié chez Alphonse Lemaire le poète Marius Cabanes et qui est arrivé en peu de mois à sa 60e édition. Fils d'un cultivateur des environs de Bayonne, Marius Cabanes a débarqué, il y a 7 ou 8 ans, dans un petit hôtel garni de la rue Racine, avec 4 louis dans son gousset et un gros manuscrit de poèmes au fond de sa malle. Cet homme du Midi, ambitieux et pauvre, qui, pendant l'interminable voyage en 3e, s'était nourri d'un pot de confit d'oie et d'un pain de 4 livres emporté de son pays natal, marchait, lui, 100 millième, à la conquête de Paris. Il comptait, pour réussir, un peu sur ses vers, écrits en l'honneur du Béarn et du Pays basque, et beaucoup sur sa soif de célébrité, sa souplesse gasconne, son talent de déclamateur et sa brune et jolie tête d'arabe, à la barbe en fourche, aux yeux de chèvre amoureuse. Tout de suite, ce gracieux et rusé compagnon prit pied dans le quartier latin. Gagnant sa vie au moyen de quelques leçons, son oncle, le curé, avait fait de lui un passable humaniste, il triomphait tous les soirs dans un café du boulevard Saint-Michel, fréquenté par des compatriotes, où il récitait ses poèmes d'une belle voix de médium, avec le geste du Rouget de Lisle des images et le regard inspiré des cabotins. Les vers de Marius Cabanes étaient-ils bons ou mauvais? Nul n'aurait pu le dire. Ils sonnaient bien, étaient tortillés à l'avant-dernière mode parnassienne, et l'habile garçon n'ignorait aucun des secrets de la prosodie nouvelle, bousculant les mystiches tout comme un autre et rimant en prétérite. Les pièces étaient convenablement composées, les strophes harmonieuses. On y voyait défiler, en descriptions assez justes de dessins et de couleurs, les scènes et les paysages de là-bas, et c'était, chez tous les étudiants de Pau ou de Dax, installés devant les pyramides de soucoupe, un rugissement de plaisir quand Marius, adossé au poêle de l'établissement, annonçait, avant de les déclamer, ses poèmes par leur titre. Aux Pyrénées, les joueurs de pelote, à Henri IV, une soirée à Biarritz, au bord du Gave, l'écarteur landais, la lame de fond, à Saint-Jean-de-Luz, etc. Un public plus désintéressé se serait-il aperçu qu'il n'y avait là aucune sincérité, aucune palpitation, que tous ces morceaux, c'est le mot qui convient, pour parler des vers de Cabanes, étaient à la glace, fabriqués de parti pris comme des vers latins? Peut-être. Mais Marius, excellent diseur, était aussi très capable d'éblouir les critiques les plus sévères par sa voix chaude, que faisait trembler une émotion factice, et par son faux air d'homme de génie. Ce simili-poète, qui avait en lui l'étoffe d'un diplomate, ne devait pas s'attarder, on le pense bien, à des succès de cénacle. Il joua des coudes et, vigoureusement, dans la cohue parisienne, fit d'utiles relations, s'accouda pour déclamer ses vers à toutes les cheminées littéraires, se surpassa dans ce genre à un dîner de la Cigale présidé par un ministre méridional, obtint du coup une place dans les bureaux de l'instruction publique, séduisit enfin un éditeur et publia ses poèmes béarnais. La redoutable épreuve de l'impression ne leur fut pas favorable, du moins aux yeux des véritables connaisseurs. Tout nu sur le papier blanc, dépouillé de la chaleur artificielle dont les échauffait la voix de baryton de Marius, ils apparurent tels qu'ils étaient en réalité, froids comme cadavres et creux comme radis. Malgré les nombreuses réclames obtenues par l'auteur, qui se multiplia et fit donner tous les journalistes nés au-delà de la Loire, l'infortuné libraire, qui avait eu la témérité d'imprimer les poèmes béarnais à ses dépens, n'en vendit pas 200 exemplaires sur 1000. Marius Cabanne souffrit beaucoup, sans doute, de cet insuccès. Mais il eut l'adresse de s'en servir, de s'en faire même une parure. Il alla plus que jamais dans le monde où il affectait la fière mélancolie du poète méconnu et où il accusait la société moderne d'une cruelle indifférence pour le grand art. Souriant avec amertume, quand on lui demandait de dire quelques vers, il se faisait beaucoup prier, cédait toujours néanmoins, et, grâce à son admirable organe et à son talent d'acteur, il animait un de ses froids poèmes, lui faisait un sort, comme on dit dans l'argot des coulisses, et forçait les applaudissements. De cette façon, Marius finit par se constituer un groupe d'admirateurs, peu nombreux mais enthousiastes, composé de ceux qui n'avaient pas lu ses vers et les lui avaient seulement entendus réciter. Les femmes, séduites par son joli visage, à qui la tristesse allait bien, le plaignirent et s'intéressèrent à lui. Il élargit le cercle de ses connaissances, assista silencieux et l'œil fatal à beaucoup de dîners en ville, obtint de l'avancement à son ministère, fut aimé d'un bas bleu qui avait de l'influence. L'Académie française, bonne et indulgente personne, accorda l'un de ses prix au poème béarnais, que le secrétaire perpétuel, dans son aimable discours, appela un bel effort. Bref, sans parvenir à la notoriété, Marius se créa tout doucement une petite réputation latente et tira tout le parti possible de son piteux livre. Il eut le grand tort, au bout de 3 ans, d'en mettre au jour un second. Ses Pyrénéennes furent trouvées par les gens de goût encore plus vides et plus ennuyeuses que les poèmes béarnais. Peu ou point de réclame. Cette fois, les camarades de la presse firent la sourde oreille aux sollicitations de Marius. On commençait même, dans les salons littéraires, à se moquer un peu de celui qu'on appelait le beau diseur, et les malveillants murmuraient déjà les mots fâcheux de « raté » et de « fruits secs », lorsque, brusquement, 2 mois après l'échec radical de ces malencontreuses pyrénéennes, Marius Cabanne publia ce pur et délicat chef-d'œuvre qui a nom « Lettre d'amour ». L'étonnement fut immense. Il n'y avait pas à dire, mon bel ami, depuis la religieuse portugaise et Mademoiselle de Lespinasse, on n'avait rien lu de plus sincère, de plus touchant, de plus passionné. Ce n'était pas l'insupportable roman par lettres. Non, trop éloquente Julie de Rousseau. Non, Corinne à turban. C'était bien plus simple que cela. Une très pauvre sous-maîtresse, gagnant son pain dans une institution de jeunes demoiselles, n'avait qu'une demi-journée de liberté par semaine. Cette demi-journée, elle la passait avec son amant, un étudiant poète aussi pauvre qu'elle, vivant dans un taudis du quartier latin. Et, follement amoureuse, pensant à lui sans cesse, elle lui écrivait, dans le silencieux ennui de la classe, devant les fillettes penchées sur leurs devoirs. La correspondance ne durait pas longtemps, quelques mois à peine. Elle commençait le lendemain du jour où l'imprudent enfant avait donné son cœur et le reste. Quel sublime cri d'amour, quel hymne de joie! Et elle finissait par le douloureux et suprême appel de l'abandonné qui va mourir de l'abandon. 40 lettres, voilà tout. Mais quel livre! La vérité même, une tranche toute saignante de la vie. Et le style, fougueux, emballé, incorrect, mais avec des trouvailles divines, des coups de génie féminin, et coulant sur la page, pur et chaud comme le sang d'une veine coupée. Quel bruit dans le landerneau littéraire! Marius Cabanne fut illustre en 15 jours. « À la bonne heure, disait-on à la brasserie où se réunissaient les jeunes naturalistes. Voilà du coudoyer, du sous les yeux. « Exquis, délicieux !» chantaient les femmes du monde dans l'été de 5 heures. Le nouveau planche de la revue avait sans retard maçonné un article, ponctué de « Que si !» et de « tout de même que » dans lequel il plaçait le livre récent entre la princesse de Clèves et Manon Lescaut. Et, en descendant l'escalier de l'Institut au bras d'un confrère, Jean Borel, le vieux critique aveugle qui s'était fait lire la veille les lettres d'amour, s'écriait « Attention, voilà un écrivain !» du ton dont il eut entonné le « Nunc dimittis ». Les déliquescents eux-mêmes, tout en regrettant dans le livre frais éclos l'absence complète de symbolisme, étaient légèrement troublés. Seuls quelques esprits chagrins se demandaient avec stupéfaction comment un poète aussi mécanique, aussi médiocre que Marius Cabanne, avait pu écrire ces pages de feu où tout le cœur d'une femme était deviné. Quoi ? On était la veille un versificateur, un livresque, un rhétoricien, on cuisinait des descriptions à la sauce moderne, à peu près comme un abbé de Lille qui aurait lu Victor Hugo. Et puis, changement à vue. Du jour au lendemain, parce qu'on avait lâché les vers pour la prose, on trouvait du premier coup l'originalité, l'émotion, la vie, les cris du cœur. Allons donc, ce n'était pas possible, il y avait quelque chose là-dessous. Ce n'était pas possible, en effet, et voilà tout le mystère. Les lettres d'amour n'étaient pas de Marius Cabanne. Peu de jours après son arrivée à Paris, un dimanche, par une de ces claires matinées du milieu de l'automne où l'on se meut à l'aise dans une atmosphère très douce, Marius se promenait dans le jardin du Luxembourg. Malgré la beauté du jour et de l'heure, il était triste. Des quelques personnes à qui il était recommandé et chez qui il avait déposé ses lettres d'introduction, aucune ne lui avait encore donné signe de vie, et des 80 francs, son unique capital, qu'il possédait en débarquant, il ne lui restait plus que 3 pièces de 100 sous. Voulant épargner ses dernières cartouches, il avait déjeuné sur le pouce, tout en flânant le long des terrasses, d'un bout de saucisson et d'un morceau de pain, et, comme il lui restait une boule de mie, il était venu jusqu'au bord du bassin et il endettait le reste de son pain au cygne. Il avait alors remarqué, à quelques pas de lui, une jeune fille, vêtue plus que modestement, l'air oisif, un doigt dans un livre, qui regardait comme lui l'eau dormante. Elle était petite, bien faite, avait un visage à la greuse et de grands yeux pleins de lumière. Du premier regard, on reconnaissait en elle une nature affinée, délicate, et elle avait l'air si comme il faut, malgré sa confection à bon marché et son pauvre chapeau de paille brune sans un ruban. Pourquoi Marius et cette jeune fille, en dépit de toutes les convenances, se rapprochèrent-ils peu à peu ? Comment eurent-ils en même temps un sourire ? Comment se parlèrent-ils, enfin, de ce qu'ils avaient sous les yeux, des signes gourmands, de la pure splendeur du ciel ? Sans doute parce qu'ils étaient malheureux et seuls au monde. Il leur sembla qu'ils s'étaient toujours connus. Ils s'éloignèrent du bassin, marchant côte à côte et causant comme d'anciens amis. Ils remontèrent sur la terrasse, cherchèrent d'instinct un banc à l'écart sous les arbres, s'y assirent, échangèrent des confidences. Elle s'appelait Anna, était orpheline et durement traitée par des parents avares dans la petite ville de Champagne où elle était née. Elle avait demandé son pain à son brevet d'institutrice et, après avoir erré de pensionnat en pensionnat, elle était maintenant sous-maîtresse dans une assez bonne maison, boulevard Montparnasse, où elle gagnait 50 francs par mois, avec la nourriture et le logement. Elle n'était libre que le dimanche dans l'après-midi, et, ne connaissant personne à Paris, elle visitait les musées les jours de mauvais temps, ou se promenait dans les jardins publics quand il faisait beau, et elle emportait toujours, l'enfant solitaire qu'elle était, un livre qui lui tenait compagnie. Marius prit celui qu'elle avait à la main et lut le titre. C'était « Le Myosotis d'Hégésippe Moreau ». Il lui dit alors qu'il était poète, lui aussi, et combien il se sentait perdu dans la grande ville. Elle le plaignit avec de caressantes paroles et voulut connaître quelques-uns de ses vers. Marius, de sa voix profonde, qui était encore plus belle quand il la contenait, lui récita les seules strophes sincèrement émues qu'il avait trouvées dans sa vie. Il les avait écrites la veille au soir, à la lueur de sa bougie d'autel, dans sa chambre froide et nue, et c'était un sanglot de douleur dont Anna admira l'éloquence sans en sentir l'égoïsme. Quand Marius eut fini, elle avait les yeux pleins de larmes. Ils ne songeaient plus à se séparer. Ils restèrent ensemble ainsi, s'asseyant sur les bancs ou suivant les longues allées jusqu'à la tombée du jour, quand le vent du soir fit frémir sur le sol et chassa devant leurs pas les premières feuilles mortes. Anna devait rentrer à 6 heures à son pensionnat, mais on ne se quitta pas sans s'être promis de se revoir le dimanche suivant. Tous deux furent exacts au rendez-vous. Et ce fut encore une belle journée, déjà plus froide, qu'ils passèrent dans le jardin, plus dépouillés, jusqu'à la nuit qui vint plus vite. Leur causerie était souvent coupée de longs silences, pendant lesquels ils faisaient ensemble le même rêve. Timides, ils n'avaient pas encore parlé d'amour, mais la pauvre fille aimait déjà, et Marius, hélas, croyait aimer. Le dimanche d'après, l'hiver était venu tout à fait et une pluie fine et glaciale lavait les squelettes noirs des arbres. Ce jour-là, il la décida à venir chez lui, dans cette chambre meublée de la rue Racine où il ne rentrait jamais le soir sans avoir envie de pleurer tant elle était lugubre, avec son carrelage mal caché par un vieux tapis, son sale fauteuil de velours jaunâtre, son papier à fleurs déchiré par places, et tant il était dégoûté de voir, accroché au mur en face du pied de son lit, une horrible gravure à la manière noire qui représentait le naufrage de la Méduse. Elle leur devint bientôt un paradis, la hideuse chambre, car ce fut là qu'ils s'aimèrent. Tous les dimanches matin, Marius y mettait le luxe et la joie du pauvre en allumant un grand feu, et bientôt après, Anna y apportait le parfum de sa jeunesse épanouie et du petit bouquet de violettes piqué à son corsage. Elle s'était donnée absolument sans se marchander, la pauvre enfant sans famille, sans protection, sans amis, qui se croyait privilégiée entre toutes les femmes, puisqu'elle était aimée d'un poète. Elle s'était donnée corps et âme à jamais, et comme elle ne pouvait passer que quelques heures par semaine avec son amant, elle voulut, du moins, être tout à lui en pensée le plus souvent possible, et elle commença à lui écrire chaque jour, tout en surveillant l'étude des pensionnaires, ses tendres, ses naïves, ses adorables lettres, embaumées par les fleurs de son sentiment, et qu'il comparait le littérateur, quand il les lisait, le matin, un coude dans l'oreiller, en fumant sa première cigarette, au flot de roses s'échappant du tablier brusquement ouvert d'Élisabeth de Hongrie. Marius fut d'abord bien aise, sans doute, d'avoir cette jolie maîtresse, point gênante, hebdomadaire, comme il la qualifia un jour, en racontant son aventure à un camarade. Il prit même quelquefois plaisir à lire ces pages brûlantes où flambait à chaque ligne un vrai mot d'amoureuse. Celui-ci, par exemple. « Quand je me dis intérieurement ton nom, il me semble que ma pensée sourit. » Mais au fond, le froid méridional n'aimait point Anna. Bientôt, ses longues épîtres, auxquelles il ne prenait pourtant même pas la peine de répondre, l'importunèrent, et il les jeta, sans les ouvrir, au fond d'un tiroir. Puis Anna elle-même l'ennuya. Il avait été présenté à une comédienne de l'Odéon qui semblait avoir un caprice pour ses yeux languissants et sa barbe fourchue. Il rêvait déjà de lui écrire un rôle, d'arriver au théâtre par son entremise. Marius prit donc le parti de rompre avec Anna. Il le fit avec une indigne brutalité, dans une scène où il laissa éclater tout son cynisme et toute sa dureté de fils de paysan. Et la pauvre enfant s'en alla, la tête basse, les membres cassés, frappée au cœur, tuée. Il n'entendit plus parler d'elle, ne s'en inquiéta nullement, absorbé qu'il était par le rude combat de la vie, par ses efforts d'intrigant et de faux poète. Enfin, 6 mois après, il reçut une lettre d'Anna, la dernière, datée de l'hôpital Cochin, où la malheureuse fille se mourait de chagrin et de consomption. Lettre admirable, débordante de miséricorde et de générosité, où la martyre pardonnait à son bourreau, où toutes les blessures qu'il lui avait faites devenaient des bouches pour crier encore « Je t'aime ». Le sec et méchant cœur de Marius fut un peu remué malgré tout. Le poète fut assez heureux pour arriver à temps à l'hôpital et recueillir son pardon sur la bouche expirante de sa maîtresse et empêcher que ce corps charmant n'échouât sur la table d'amphithéâtre. Il mit même sa montre en gage et loua pour la morte un terrain de 5 ans au champ des navets. Seulement, oh, par hasard, il avait gardé les lettres. Et plusieurs années plus tard, quand l'insuccès de ses pyrénéennes fut bien constaté, même pour lui, un soir d'hiver qu'il se chauffait mélancoliquement les tibias, il se les rappela, ces lettres. Il les retrouva parmi ses paperasses, les relut, en comprit la touchante beauté. Et il les a copiées de sa main, publiées comme de lui, et le voilà presque passé grand homme. C'est ainsi. Le misérable a vendu la dépouille de sa victime. Plagiat compliqué de meurtre et de vol. C'est la pire des infamies. Mais qui sait, si les morts s'occupent des vivants, Anna pardonne encore à Marius, car elle l'aime pour l'éternité et elle est heureuse de lui être encore bonne à quelque chose. Il se dit cela pour s'excuser et il ne se trompe peut-être pas. Les cœurs aimants doivent conserver jusque dans l'autre vie leurs incroyables faiblesses. D'ailleurs, les remords tourmentent-ils Marius ? Bah ! N'a-t-il pas assez de vanité pour se convaincre qu'inspirer un livre ou l'écrire, cela revient au même ? Quoi qu'il en soit, Marius Cabanne a vitement profité de son triomphe. Il est devenu l'époux d'une riche héritière à qui les lettres d'amour avaient tourné la tête et il donne aujourd'hui d'excellents dîners. Aussi, son ambition n'a-t-elle plus de limites. On assure même que, l'autre nuit, quelqu'un l'a reconnu, debout dans le clair de lune, au milieu du pont des Arts, devant l'Institut, et que, montrant le poing à la célèbre coupole, Marius murmurait entre ses dents le fameux défi de Rastignac « À nous deux, maintenant !»